Dissidence. Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Ou alternatif, attaque, Valério et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur Dissidence Radio HDR 99.1. Dissidence est animée cette semaine par les alternatifs avec Thomas.
Salut.
Et moi, Benoît, et nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir parmi nous Georges Gonjarov. Bonjour.
Bonjour.
Donc, l'idée que nous avons eue, la très bonne idée, vous vous en doutez, c'est que nous sommes en pleine campagne électorale sur les élections régionales et qu'en parallèle, il y a actuellement toute une réforme très profonde, justement, des collectivités locales autour d'une loi de réforme de ces collectivités locales. Et il nous a semblé assez intelligent, à la veille de ces élections, de réfléchir à la question. Alors pour ça, comme on est très très intelligent ce matin, on a fait appel au meilleur spécialiste du
bien.
Sujet, ça commence bien, je lui mets un peu la pression, qui a suivi de façon très détaillée l'ensemble du processus et qui en plus est capable d'être très accessible, donc ça fait vraiment deux qualités pour être parmi nous ce matin. Georges Gonjarov est le fondateur et un des fondateurs et administrateurs d'une association qui s'appelle l'ADELS, c'est-à-dire l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, et qui est amené de ce fait à suivre particulièrement les questions et qui réfléchit du coup depuis près de 50 ans à ces questions d'organisation des pouvoirs autour des collectivités locales. Alors peut-être pour commencer, j'ai commencé par dire la réforme des collectivités territoriales. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de parler des réformes ?
Je crois qu'on peut dire la réforme tout en sachant que cette réforme, elle s'étend sur un nombre important de textes. En gros, 6 projets de loi, dont 2 sont votés, 4 à venir, et que ça va s'étendre jusqu'à la fin de 2011. Donc c'est tout un processus législatif long et dont on est seulement au début.
Et le fait justement qu'il y ait plusieurs lois n'est pas sans poser question. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les lois qui ont déjà été votées et lesquelles sont prévues ?
D'accord. Donc, la première loi qui a été votée, c'est une loi qui concerne les finances des collectivités locales. C'est la loi qui supprime la taxe professionnelle, dont on a beaucoup parlé, et qui remplace cette taxe professionnelle par des séries de contributions des entreprises versées à l'État, et l'État reversera aux collectivités locales sous forme de compensation, au moins la première année, le manque à gagner, puisque les collectivités locales n'auront plus la taxe professionnelle, qui pour beaucoup d'entre elles constituait jusqu'à présent leur principale ressource. Donc il y a énormément eu de débats autour de cette première loi, une énorme inquiétude des élus de tous bords de voir s'assécher la partie principale de leur financement. Voilà le premier texte. Un second texte a été voté définitivement. Il est assez technique et semble mineur, mais il permet, en raccourcissant la durée du mandat des conseillers généraux et des conseillers régionaux, de faire coïncider toutes les élections locales en mars 2011. C'est-à-dire en mars 2011, on votera le même jour pour les
2014.
Alors, on votera le même jour pour les municipales, pour les conseils généraux et les conseils régionaux. Actuellement est en cours de discussion la principale loi, la loi qui réforme les structures. Le Sénat en a fait une première lecture fin janvier, début février, et l'Assemblée nationale en sera saisie après les élections régionales. Cette loi, qui connaîtra plusieurs lectures, 2 lectures, vraisemblablement sera votée à la fin juin ou au début de septembre. C'est la loi principale. Viendront ensuite des lois électorales et en 2011, la loi sur les compétences, c'est-à-dire la nouvelle répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités locales. C'est donc des textes très longs, très complexes, très techniques, étalés dans le temps, ce qui rend naturellement leur lecture et leur compréhension difficiles. D'autant plus que la loi a déjà un peu bougé, le projet de loi gouvernemental a déjà un peu bougé avec la première lecture sénatoriale. C'est des textes qui bougeront encore, car les élus concernés au premier plan, y compris les élus de droite, sont très très attentifs, ont déposé des amendements, la loi bouge. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui dans quel état elle sera à la sortie de la moulinette parlementaire.
Donc on a bien compris qu'en fait cette réforme-là, elle est rendue très opaque. Parce que tout se passe en haut lieu, on va dire que les médias en parlent très peu, les élus en parlent très peu aussi.
Les élus en parlent beaucoup.
La taxe professionnelle, on en a parlé. La taxe
même du reste. J'ai pas mal d'élus, les élus et les associations d'élus sont quand même en pleine discussion, bouleversement, inquiétude, remue-ménage, lobbying auprès des parlementaires. Non. Ouais. Le citoyen de base, il en sait à peu près rien. Les journalistes disent souvent que ça n'intéresse pas les citoyens de base parce que c'est trop complexe. Mais il y a quand même un débat dans la société des élus.
Alors pour rendre peut-être, pour le citoyen de base dont nous faisons partie d'ailleurs, pour rendre ça un peu moins opaque, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les justifications qu'avance le gouvernement pour faire passer ces réformes-là?
Juste un petit point, Thomas, si tu permets, avant d'étudier les justifications, sur cette question du calendrier, parce qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, si j'ai bien compris ce que nous as dit, Georges, c'est qu'on va finir le processus par se poser la question des compétences des collectivités territoriales, alors qu'on aura déjà fixé auparavant comment on va financer tout ça.
Oui, tous les observateurs, tous les spécialistes pensent que on a pris la réforme à l'envers. À toute logique, à toute rationalité, on aurait dû commencer par discuter de la répartition des compétences. Qui fait quoi? Donc, il y a eu une première réforme, je vous rappelle, de décentralisation au temps de l'arrivée de la gauche au pouvoir, enfin la réforme qu'on appelle la réforme de fer, qui a, par deux lois de 1983, réparti les compétences. 25 ans après, ou presque 30 ans après, on se rend compte que des choses marchent, des choses ne marchent pas, et il est tout à fait logique de réfléchir à nouveau sur la répartition des compétences. Qu'est-ce que fait la commune? Qu'est-ce que fait le département? Qu'est-ce que fait la région? Qu'est-ce qui reste à l'État? Tout ça est un débat légitime et ouvert. Il aurait fallu commencer par là. Et une fois qu'on savait ce que chacun allait faire, réformer les structures, éventuellement réformer les lois électorales pour que chaque niveau ait des élus capable de mener une gouvernance correcte, et enfin discuter des moyens matériels, humains, fonction publique territoriale, et financiers, fiscalité locale, permettant à chaque niveau d'exercer correctement ses compétences. On a commencé par les finances, on va discuter des structures, et on va finir par les compétences. Alors, c'est un peu absurde, mais c'est comme ça.
Oui, là, on est bien face à une incohérence.
Il y a une incohérence incontestable et il faut vraiment faire une gymnastique mentale permanente pour remettre les choses à l'endroit.
Ouais, qui n'aide pas à la clarification du débat. Ah. Alors voilà, justement, comment le gouvernement justifie-t-il, pour reprendre la question de Thomas, comment le gouvernement justifie la mise en place de cette réforme?
Alors, je dois dire que pour les spécialistes du moins, cette réforme n'arrive pas comme ça brutalement. Elle est préparée depuis des années par des rapports qui ont été commandés. Les plus connus, vous en avez certainement entendu parler, c'est le rapport Attali.
Ah oui, le rapport Attila.
Voilà, Attali, qui en proposait toute une série de réformes pour moderniser la gouvernance, puisqu'il faut toujours prendre ce mot à la mode, la gouvernance territoriale. Et il y a eu, plus récemment, il y a à peu près un an, le rapport Balladur, qui faisait aussi toute une série de propositions pour moderniser la France. Et donc, c'est à partir des propositions de ces deux rapports, essentiellement, que le gouvernement a bâti un projet de loi, le projet principal dont on discute actuellement, qui a été présenté en octobre dernier, et dont le Parlement a donc commencé à saisir en janvier 2010. Donc, On a un grand nombre de textes, de discours du président de la République, de discours de ses principaux lieutenants, du discours du gouvernement, du ministre Alain Marleix, du secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Donc, et sans parler de l'exposé des motifs des lois, puisque toute loi commence par un exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique pourquoi il dans quel but il présente cette loi. Alors c'est en analysant tout ça qu'on peut se rendre compte des justifications gouvernementales. Alors la première, elle est connue, c'est la simplification. C'est le fameux discours dont beaucoup ont entendu parler certainement, qu'on appelle le discours sur le millefeuille.
Le millefeuille.
Le millefeuille.
Il faut s'attaquer au millefeuille. Voilà.
Donc il y a trop de niveaux, on ne sait pas qui fait quoi, tout ça est entremêlé, tout ça est incompréhensible, provoque des doublons. Coûteux, des compétitions entre niveaux de collectivités locales, la région rentre dans le domaine du département, le département se mêle des compétences de la région, bref, tout ça, il faut simplifier. Simplifions le millefeuille. Il y a trop de feuilles. Le rapport Attali, comme le rapport Balladur, proposait la suppression du département. Le gouvernement n'a pas osé aller jusque-là, mais toute une série de mesures de ces projets de loi vont dans le sens d'un assèchement progressif du département qui deviendra progressivement une coquille vide. Et Balladur disait, dans les 10 ans, les départements disparaîtront d'eux-mêmes. Bon. Donc, premier thème, celui de la simplification. Deuxième thème, celui de la rationalisation, qui est proche de celui-là, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ce grand fouillis. Hein? Et donc, toute une série de mesures qui sont prévues sont destinées à tenter de simplifier et de rationaliser le système de gestion locale de la France. Il faut reconnaître que ce sont des arguments qui portent, y compris au niveau des électeurs. Les médias s'en sont saisis. Toute la presse, en particulier les hebdomadaires, ont été remplis d'articles sur les inconvénients du millefeuille, les incohérents. Donc, le gouvernement surfe sur une vague qui peut en effet être perçu par les électeurs. Et puis le troisième thème, c'est l'économie. Alors c'est le grand thème de la rationalisation des dépenses publiques, la diminution des dettes, les économies budgétaires. Et là, alors le gouvernement joue sur un autre thème qui peut être populaire, qui est la stigmatisation des élus. Tous les élus, y compris ceux de droite, quand on les interroge, sont scandalisés par l'image qu'on donne d'eux-mêmes.
Ouais, il y en a trop, il y a trop d'élus.
Il y a trop d'élus, ils sont dépensiers, ils gèrent mal, ils font des dépenses pour des ponts ou autre chose qui n'ont aucune utilité. Je prends pas l'exemple du pont par hasard. Ils se sont bâtis des hôtels de département, des hôtels de région somptueux, etc. Bon, il y a tout un discours péjoratif à l'égard des élus, et donc si on prend des bonnes mesures, on va obliger les élus à dépenser moins. Hein? C'est clair. Et donc les élus contribueront à la politique de réduction des coûts qui est celui affiché par l'État, pas sans aucun résultat, puisque jamais la dette de l'État n'a été aussi profonde. Il faut quand même rappeler que les collectivités locales réalisent plus de 75% des équipements publics, hein, avec une dette qui est 10 fois moins que la dette de l'État. Donc les élus ne sont pas de si mauvais gestionnaires, mais c'est le discours qui permet de justifier la réforme. Autre aspect qui me semble très très important, l'État réduit le nombre de fonctionnaires et il s'agit de pousser les collectivités locales à appliquer elles aussi. Il y a tout un discours sur les collectivités locales ont embauché des fonctionnaires territoriaux, titulaires ou non titulaires, à tour de bras. Il faut diminuer le nombre de fonctionnaires locaux.
Il y en a trop,
voilà.
Ça coûte cher.
Et en plus, pour des services publics qui pourraient être remplis par le privé. Hein, il y a aussi, en arrière-fond, tout le discours connu sur le service public ou la régie directe, ça coûte cher, c'est mal géré, ça serait beaucoup mieux géré par des entreprises privées, Veolia ou autres, pour le ramassage des ordures ménagères, pour le traitement des eaux usées ou pour autre chose.
La restauration scolaire de Sotteville-lès-Rouen, etc. etc.
Bon, donc il y a quand même en arrière-fond la vieille pensée libérale, Je pense à ce qu'avait dit un certain maire de Nîmes, le privé fait toujours mieux que le public.
Ouais.
Bon. Donc, il y a aussi des mesures, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est assez technique, mais il y a aussi des mesures dans ces projets de loi qui poussent les collectivités locales à diminuer leur nombre de fonctionnaires. Mmh. On a avancé le chiffre de 50 000 fonctionnaires locaux de moins par an, pendant plusieurs années, pour aboutir à donc des économies considérables.
Et est-ce qu'au bout du compte, derrière ces trois objectifs de simplification, rationalisation et économie, est-ce que derrière ces trois objectifs, il y a profondément une volonté de recentralisation quelque part ?
Alors, dans la mesure où les simplifications et les rationalisations doivent être conduites, et comme les élus ne sont pas spontanément vertueux, autre discours gouvernemental, il faut bien que une autorité force les élus à agir. Et donc il y a dans ces textes un renforcement considérable du pouvoir des préfets sur le local. Je pourrais donner des exemples précis tout à l'heure. Et par conséquent, beaucoup d'analystes disent cette réforme, c'est une recentralisation, un retour de l'État sur le local via le préfet, et par conséquent, ce que Pierre Mauroy, qui est l'auteur de la première décentralisation avec Gaston Defferre en 82-83, appelle une contre-réforme. Hein. De même que l'Église, avec la contre-réforme catholique, a lutté contre le protestantisme et Luther, le gouvernement, par cette réforme, lutte contre la décentralisation telle qu'elle avait été menée, aussi bien par la gauche, réforme Defferre, que par la droite, réforme Raffarin. C'est aussi une dénonciation de la réforme Raffarin. Donc c'est une autre droite, plus dure, plus déterminée, qui entend défaire ce qui a été fait et par la gauche et par la droite depuis plus de 20 ans.
Voilà, donc on n'est pas dans la réforme, vous avez bien entendu, on est dans la contre-réforme.
On est dans la rupture,
voilà.
Pour reprendre le terme du président de la République. Voilà. Une rupture qui est un chantier, mais qui est aussi un chantier de démolition.
Oui, oui. Donc démolissons, donc on va peut-être mettre une petite gauche dans la droite, comme certains diront, avec une petite pause musicale, et nous reviendrons donc sur les détails de la réforme après cette petite pause musicale de Volo.
J'ai appris plein de choses pendant la crise financière. J'en connais maintenant sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses cicaves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, aujourd'hui on l'appelle Madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave, allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer, allez tous vous faire spéculer. Plein de choses pendant la crise financière, ça viendra pas chez nous, ça venait du ministère. Les commentateurs perdus dans leurs commentaires, les experts en analyse du tout et de son contraire. Que ceux qui ne comprennent rien expliquent à ceux qui pichent que dalle. Pour le manque de liquidité, demandez aux banques centrales. Si c'est une chute des cours, faut réserver fédéral. Quand le libéral appelle au secours et nous fait la morale, c'est le paradis fiscal. Allez tous vous faire réguler. Faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. Allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. C'est passé plein de choses depuis la crise financière. Combien d'actifs toxiques et de saisies immobilières, de nouveaux plans de relance et de déficits budgétaires. Combien de structures hors bilan d'agences de notation et pour combien d'intermédiaires.
À l'heure des justifications et des délocalisations, de récession en dépression, tout en indice et inflation. À l'heure des comptes, titrisation des bénéfices et fluctuations. À tous les traders en action et à leur prise de position. Allez, tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. 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 Spéculer.
Voilà, retour sur Dissidence sur HDR, animé aujourd'hui par les Alternatifs. Donc nous étions en train de parler, là tout de suite vous venez d'entendre, donc c'était Volo, et le titre c'était Régulé, ça parle évidemment de la régulation ultra-libérale de notre société qui est en marche. Et donc pour justement à ce sujet, nous étions en train de parler de la réforme des collectivités territoriales, Benoît.
Et Georges Kandjarov nous a présenté les trois justifications principales du gouvernement, et on va essayer de partir de là pour comprendre concrètement quelles sont les propositions concrètes de modification de fonctionnement de ces collectivités territoriales. Alors le premier point, Georges, sur lequel tu es revenu, c'est la question de la simplification. Alors que nous prépare notre gouvernement pour simplifier les institutions?
Alors il faut partir du discours péjoratif sur le millefeuille. Le gouvernement supprime une feuille du millefeuille. Cette feuille, c'est...
Président de la République.
Ça pourrait, oui. Je sais pas, il n'est pas feuille du millefeuille. On est dans les collectivités locales, on n'est pas dans l'organisation de l'État. Mais une feuille du millefeuille qui n'est d'ailleurs pas une collectivité locale, même pas un établissement public, et qui s'appelle le pays. Vous connaissez, il y a 13 ou 14 pays en Haute Normandie, me semble-t-il. Le plus connu dans le nom, enfin dans l'oreille, c'est le pays de Bray. Bon. Mais il y en a d'autres, hein, le Roumois ou d'autres. Et donc, le pays est une structure qui a d'abord été spontanée. Les premiers pays sont nés en Bretagne, bien entendu, en 1965. Ils ont attendu 30 ans pour recevoir une base légale, la loi Pasqua de 1995. Et il y a actuellement 350 pays à peu près en France. 85% du territoire français est recouvert de pays. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pays? Un pays, c'est une structure créée par les collectivités locales et les communautés de communes, le plus souvent, à une échelle géographique. Souvent, quand on prend le pays de Bray, on voit bien ce que ça représente, la boutonnière du pays de Bray. Hein, on voit ça dans le paysage quand on est géographe. Et chargé d'élaborer un projet de territoire. C'est-à-dire de faire l'analyse de toutes les chances et les faiblesses d'un territoire et de bâtir tout un projet pour l'avenir du dit territoire. C'est ça la fonction du pays. Pas de gérer. Le pays ne gère rien. Mais il fait des études pour le compte des communes et des communautés de communes. Par exemple, dans le pays de Bray, le grand travail a été magnifique, reconnu dans toute la France comme exemplaire, un travail sur le paysage. Toutes les menaces qui pèsent sur le paysage, les haies, les zones humides, les falaises, le style des maisons, etc. Bon, et donc toute une série de propositions pour sauvegarder, reconstituer les paysages du pays de Bray, la biodiversité, etc. Ça s'appelle une charte paysagère. Ça a une forte dimension écologique, mais voilà ce que font les pays. Et il y en a comme ça, 350 en France. Le projet de loi et la première lecture sénatoriale supprime donc toute base légale à ces structures qui avaient rendu d'énormes services dans l'aménagement du territoire et principalement dans l'aménagement du territoire rural. Par contre, après avoir supprimé sans vergogne les pays, le gouvernement crée 3 nouvelles structures. Alors, pour simplifier le millefeuille, on supprime une feuille et on en crée 3 de plus. Ah, ça fait donc ça, 2 feuilles de plus au millefeuille.
Ah, ouais.
Alors, les 3 feuilles nouvelles du millefeuille, c'est d'une part les métropoles, pour les plus grandes agglomérations françaises, au-dessus actuellement de 450 000 habitants, donc il y en aura 7 dans l'état actuel, peut-être plus parce que le seuil peut encore évoluer. Les pôles métropolitains, à une dimension un peu en dessous, c'est-à-dire l'alliance de plusieurs villes pas trop éloignées pour créer entre elles un pôle métropolitain, et les communes nouvelles. Les communes nouvelles, c'est une nouvelle structure qui reprend des lois, une loi ancienne sur la fusion des petites communes. C'est-à-dire que l'un des discours du gouvernement, c'est que la France est mal gouvernée parce qu'elle a 36 540 communes, dont une quantité énorme de communes minuscules de moins de 500 habitants. Je crois qu'il y en a 20 000 ou 22 000 de moins de 500 habitants. Ça, c'est irrationnel aujourd'hui. Il faut pousser de force les petites communes à fusionner ou à se mettre ensemble dans donc cette nouvelle structure qui s'appellera commune nouvelle. La loi de 71, qui était déjà une loi de fusion des communes, avait échoué devant la résistance des maires des petites communes. On ne sait pas trop ce que donnera la loi sur les communes nouvelles si elle est votée, mais on voit déjà l'énorme résistance des élus des petites communes. Il y a quand même en France, on peut trouver que c'est positif ou négatif, un esprit de clocher hein, où chaque petite commune tient à son identité et où se font pas facilement avec les communes voisines. Donc il y a une interrogation là-dessus. Quant aux métropoles, alors c'est des trucs énormes. Je sais pas, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, bon, Lille.
Rouen n'est pas concerné. Non,
Rouen est en dessous, pour le moment en dessous du seuil. C'est pour ça qu'il y a des discussions sur le seuil, parce qu'un certain nombre d'agglomérations qui sont en dessous de 450 000, mais pas loin, voudraient qu'on abaisse le seuil pour avoir droit à cette nouvelle identité. Bon. Ce seront des superpuissances dans la mesure où pratiquement la métropole recevra toutes les compétences des communes membres, plus une grande partie des compétences des départements, c'est là qu'il y a une première mesure pour vider les départements, plus des compétences des régions, plus des compétences déléguées par l'État. Donc des espèces de superpuissances qui géreront un nombre de compétences absolument incroyables et qui percevront l'impôt. Bon. Donc, on s'interroge sur l'avenir des communes membres qui seront à l'intérieur d'une métropole. Elles n'auront plus que des miettes à gérer. Sur les départements ayant une métropole, imaginez ce que sera le département du Rhône face à la métropole de Lyon, ou ce que sera le département du Bouches-du-Rhône face à la métropole marseillaise, d'autant plus que rien dans la loi ne fixe le périmètre des métropoles, et que déjà un certain nombre d'élus des futures métropoles pensent aller très loin, c'est-à-dire Lyon dit Saint-Étienne fait partie de la métropole lyonnaise, mais Villefranche-sur-Saône aussi, mais l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry devra rentrer dans la métropole et on peut même aller plus loin. Il s'agit d'avoir une structure urbaine capable de rivaliser avec Milan ou avec Genève, pour prendre Lyon. Donc c'est une grande ambition de concurrence, de compétition des métropoles européennes, voire internationales, qui est derrière le projet des métropoles.
Sachant que ça pose quand même, en termes d'organisation du territoire, de sacrées questions, parce que du coup ces communes vont avoir, enfin c'est pas des communes, c'est ces métropoles, vont avoir un très grand pouvoir économique, politique, d'attraction, etc. Et le reste du territoire risque d'être totalement délaissé.
Alors c'est une des interrogations de tous ceux qui s'intéressent à un aménagement équilibré du territoire, si on fait du tout métropole, dans une vision de compétition libérale des villes, qu'est-ce qu'on fait du reste? Il n'y aura plus de sous pour les villes moyennes, les petites villes, le rural. Donc, il faut quand même dire que c'est lié au fait qu'on a eu une longue disparition de l'organisme auprès du gouvernement qui était chargé de l'aménagement du territoire, qui s'appelait la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui était l'organisme chargé justement de proposer au gouvernement des mesures équilibrées. C'est la structure qui a inventé les contrats de villes moyennes, les contrats de pays. Bon, il n'y en avait pas que pour les grandes villes. La DATAR veillait, et puis la DATAR a disparu dans la logique libérale, de même que le commissariat du plan. Et donc, on n'a plus de vision équilibrée de l'aménagement du territoire français. Et là, on surfe sur la vague internationale, il faut le reconnaître. Hein, ce n'est pas que Sarkozy et les siens. La vague internationale du tout métropole.
Et donc là, on a bien, si je résume, ce paradoxe où, pour simplifier, d'un côté, on supprime les pays, mais où, de l'autre, on crée trois nouvelles structures.
Oui, tout à fait.
Les métropoles, les pôles métropolitains et les communes nouvelles.
Exactement.
Alors, les pôles métropolitains, justement, c'est pas aussi puissant que la métropole ?
C'est moins puissant que la métropole. C'est une alliance entre plusieurs villes. Par exemple, le plus connu, c'est l'axe Lorrain, Thionville, Metz-Nancy. Aucun de ces pôles n'est capable de faire une métropole au sens du seuil que j'indiquais tout à l'heure, mais ces trois villes peuvent passer, éventuellement avec d'autres, une alliance et créer entre elles un pôle métropolitain. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir une alliance de ce type entre Rouen et Caen. Mais ça pourrait être, c'est un petit peu le dessin.
Oui,
c'est,
oui.
C'est en plus des super métropoles, d'offrir à des villes un peu plus petites l'occasion de s'allier pour devenir plus compétitives.
Oui. Et il ne reste plus que les communes nouvelles, là. À la fin, en bas de l'échelle, les grands pôles métropolitains et les grandes communes.
Ah non, parce qu'il continue d'y avoir toutes les structures antérieures, puisqu'on n'a pas simplifié le millefeuille.
On garde les anciennes structures quand même.
Les communautés urbaines, il continue d'y avoir les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Non, les communes nouvelles, c'est pour obtenir la fusion ou la quasi-fusion des toutes petites communes.
Qui ont 50, 100 habitants, des trucs comme ça. Quoi.
Je dis, il y en a 22 000, je crois qu'au moins 500 habitants. C'est non viable dans une logique de rationalité de gestion du territoire. Donc, il s'agit de pousser de force les petites communes à fusionner. Ce qu'elles ont refusé en 71, très largement, la loi Marcellin de 71 a été un échec, mais on revient à l'assaut.
Allez, on va faire une petite pause musicale et découvrir pourquoi. Parce que, chers auditeurs, vous dites, je comprends pas, on n'a toujours pas parlé de la suppression des départements dans ce côté simplification. On va découvrir ensuite le Schmidt-Blick. Tout de suite, une pause musicale.
Dédicace à tous les rappeurs de la terre. Comprennent qui doit ou qui peut. À tout cela je dis, à tout cela je dis. Je ne suis sur terre que pour un court instant, mais je vendrai ma mère pour gagner de l'argent. Je fais le mec méchant pour me faire remarquer. Les portes du showbiz sont faciles à percer. Ce qui est difficile, c'est que je ne suis pas le seul à profiter du rap, alors je barre ma gueule. Quand tous les batteurs tentent aux émissions pourries, au Téléthon, au Top 50, à C'est mon mardi. Le rap est mon domaine, du moins pour cette année. Car dès l'année prochaine, la mode aura changé. Mais moi je serai là, je la suivrai le prêt. Il n'y a pas de loi quand on veut cartonner. Je ne suis pas de ceux que l'on peut acheter. Je suis rappeur dans l'âme, mais je dois t'avouer que si tu sors ton chéquier, il y aura sûrement moyen de s'arranger. Je ferai tout pour le fric. Tout pour le fric. Tout pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Merci, facile. Voilà ce que je suis. Je suis le meilleur dans ma catégorie. Car j'ose, je mets la dose. Je m'impose dans le style et c'est l'overdose de mes proses. Je sens que j'explose, alors je prends la pause. Yo, breakdown à maman, écoutons la bassine. Yo! La bassine dans ta face. Pow, pow! La conclusion de tout ça.
ceci je vous la donne. Si moi je fais du rap c'est pour que ça cartonne. Je n'ai aucun scrupule, ni même de morale. Vous trouvez ça choquant, moi je trouve ça normal. Ce n'est pas facile d'être original, mais de ce côté là je ne m'en sors pas si mal. Je parle du crack, de mon niveau social. Je fais beaucoup d'efforts pour être aussi banal. Je ne suis qu'un rapace, je suis un produit noyé dans la masse. À force de voir trop grand, on finit tout petit. Je retourne dans la rue car il est c'est ma vie. Tout pour le fric, tout pour le fric, tout pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Breakdown. Tout pour le fric, tout pour le fric. Tout pour le fric, je ferai tout pour le fric. Et bien plus encore. Tout pour le fric. 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 Tout pour le fric.
Vous êtes bien sur HDR 99.1 www.radiohdr.fr en direct aujourd'hui avec Dissidence animée cette semaine par Les Alternatifs. On aborde aujourd'hui la question des réformes des collectivités territoriales avec Georges Kontcharov, fondateur et administrateur de l'ADELS, l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale. On a évoqué avant cette superbe chanson qui s'appelait « Tout pour le fric » des VRP, la question de la simplification, de l'objectif de la simplification annoncée par le gouvernement et concrètement ce que ça voulait dire. Et on avait vu ce paradoxe de vouloir simplifier en multipliant, en fait, au bout du compte, les feuilles du millefeuille, du fameux millefeuille. Le deuxième objectif annoncé par le gouvernement, c'était la question de la rationalisation. Alors Georges, face à cette motivation dont tu nous as parlé tout à l'heure, cet objectif du gouvernement de vouloir rationaliser, qu'est-ce qui est prévu ?
Bien. Alors le souci de rationalisation touche surtout le problème de l'intercommunalité. Je vous rappelle que l'intercommunalité, ce sont des structures dans lesquelles les communes se rangent volontairement pour créer entre elles ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale destiné à gérer un certain nombre de compétences que les communes leur délèguent parce que ces compétences sont mieux gérées à une échelle plus grande. Chacune des communes séparément ne pourrait pas réaliser une piscine, un stade, un équipement quelconque. Et donc, ou l'éduction d'eau, ou le ramassage et le traitement des ordures ménagères. Et donc, les communes se mettent ensemble pour réaliser un certain nombre de services publics qu'elles ne pourraient pas réaliser séparément. Alors, il existe toutes sortes de structures, des syndicats ou syndicats mixtes généralement spécialisés, par exemple, un syndicat de ramassage des ordures ménagères, ou un syndicat scolaire dans le milieu rural pour les écoles intercommunales. Des communautés de communes dans l'espace rural, des communautés d'agglomération pour les agglomérations de taille moyenne et les communautés urbaines pour les grosses agglomérations. Donc ça fait un grand nombre de structures, plusieurs milliers de structures enchevêtrées les unes par rapport aux autres. Et donc le gouvernement s'attaque à la rationalisation de ce maillage des structures intercommunales. Comment ? D'ici le 31 décembre 2011, dans chaque département devra être élaboré un schéma de la coopération, un schéma départemental de la coopération intercommunale, schéma élaboré par une commission départementale de coopération intercommunale rassemblant les élus, qui discuteront entre eux de la modification des périmètres, de la rationalisation, de tout ça. Alors ça implique, faire rentrer de force les un peu plus de 2000 communes, petits villages gaulois qui ont refusé jusqu'à présent de rentrer dans l'intercommunalité. Donc, il n'y aura plus de communes en dehors de l'intercommunalité.
Oui, voilà. Toutes les communes devront, au bout
toutes
du processus,
toutes les communes devront être obligatoirement
être
membres.
Dans un...
voilà. Et si elles ne le veulent pas, le préfet les y fera rentrer de force. Deuxièmement, c'est la chasse aux petites communautés de communes, jugées trop petites et pas viables, en particulier du très grand nombre de petites communautés de communes cantonales, chaque conseiller général ayant créé sa communauté de communes pour agrandir sa surface politique. Et donc, on poussera les petites communautés à se rassembler pour créer de grandes communautés de communes. Je pense au pays de Bray, par exemple, pour reprendre l'exemple du pays de Bray, où chaque canton a sa communauté de communes. Et le pays de Bray rassemble, je ne sais plus, 7 ou 8 communautés de communes. Troisièmement, il s'agit de faire rentrer les syndicats spécialisés à l'intérieur des communautés de communes pour en diminuer considérablement le nombre. Donc tout ça va se faire sous la forme de l'élaboration d'un schéma. Les élus ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour élaborer ce schéma. Et à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, les préfets sont dotés de pouvoirs extraordinaires et temporaire pour l'application du schéma, c'est-à-dire contraindre les élus, les communautés, de rentrer dans la logique du schéma. Donc au 31 décembre 2013, on devrait avoir une carte nouvelle de l'intercommunalité dans tous les départements. Voilà donc le premier élément de rationalisation. On peut voir là-dedans des aspects positifs, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu le fouillis, c'est un petit peu, quelquefois, des petits fiefs que se sont taillés, en particulier les conseillers généraux. Bon.
Ou régionaux.
Parce qu'ils n'ont pas tellement d'influence là-dessus, mais ouais. Surtout pour les communautés de communes en milieu rural, les conseillers généraux.
D'accord.
Comme il y avait, au moment de la création des communautés de communes, une carotte à toucher, sous forme de dotation augmentée, les conseillers généraux, ils ont créé des communautés de communes pour toucher la carotte. Bon, mais sans avoir vraiment un projet de territoire, sans avoir vraiment une mentalité de développement local.
Et est-ce que, justement, par rapport à cette volonté de rationalisation, il n'y a pas des points qu'on pourrait politiquement estimer intéressants ?
Alors, l'aspect qui est considéré par tout le monde comme le plus positif correspond à une vieille revendication de l'ADES, mais aussi de quantité d'autres associations, qui est de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. Vous rappelle qu'actuellement, les conseillers communautaires sont élus par les conseils municipaux. C'est des délégués des conseils municipaux qui siègent à la communauté. Donc suffrage au deuxième degré. Il n'y a donc pas de connexion directe entre l'électeur et les conseillers communautaires. Et depuis longtemps, on dit que c'est tout à fait anormal qu'une communauté qui vote l'impôt, qui a des compétences de plus en plus importantes, soit déconnectée de l'électeur.
Donc là,
et
ça
donc
reviendra.
Là, il va y avoir l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, mais par un système, c'est celui qui est appliqué à Paris, Marseille et Lyon, qu'on appelle le système du fléchage, c'est-à-dire quand vous, électeurs, vous voterez pour votre conseil municipal, sur chaque liste, il y aura un certain nombre de noms qui seront précédés d'une flèche, et c'est ceux qui sont appelés à siéger éventuellement, bon, proportionnellement au nombre de voix bien sûr, qui sont appelés à siéger éventuellement au conseil communautaire. Donc l'électeur saura par avance quels sont les candidats qui iront représenter la commune à la communauté. C'est un progrès incontestable. Nous aurions préféré que ça se fasse sur des scrutins séparés.
Oui, il me semble
quand même. Là, il va y avoir une campagne électorale municipale en mars 2014 avec un certain nombre de gens qui sont appelés à devenir conseillers communautaires, mais y aura-t-il un débat sur les enjeux communautaires, On risque d'avoir une fois de plus un débat qui portera sur les enjeux municipaux et les électeurs continueront de ne pas du tout savoir ce qu'on fait là-haut dans la communauté, alors que c'est là que se déprennent les décisions les plus importantes. Mais enfin, c'est quand même, faut le reconnaître, un progrès. Il y a un autre aspect qui est assez intéressant, bien que le seuil soit actuellement discuté. Vous savez peut-être que c'est pas la même loi électorale qui régit les petites communes et les communes plus importantes. Le seuil est actuellement de 3500 habitants. C'est à partir de 3500 habitants qu'on a des listes complètes, la proportionnelle, etc. Enfin, la proportionnelle modérée. Bon. Et dans les communes de moins de 3500 habitants, il y a un autre mode de scrutin où il peut y avoir des listes incomplètes, où il peut y avoir des panachages, où même on peut voter pour des gens qui ne sont pas portés candidats. Donc c'est la spécificité des petites communes. Donc il est question d'abaisser le seuil. Dans le texte initial, ça devait être abaissé jusqu'à 500 habitants. Les sénateurs renâclent, on parle de 2000, de 2500 habitants. Bref, il y aura quand même une extension du scrutin banal des municipales et donc une extension probablement du débat politique, parce que qui dit scrutin de liste dit débat politique pour les communes plus petites.
Alors, que jusque, là, dans, alors que jusque là dans les petites communes c'était plus un scrutin sur les noms,
sur les personnes, sur les programmes,
c'était sans étiquette,
élus sans étiquette, etc. On savait que dans la plupart des cas les divers droites ou les divers gauches étaient des élus qui avaient quand même leurs options politiques.
Ouais. Ah oui, finalement,
on le voyait au moment où il fallait donner des signatures au moment des présidentielles. On découvrait tout d'un coup que le maire de la commune de 500 habitants, qui s'était toujours dit totalement apolitique, il donnait sa signature à Le Pen, par exemple. Ça arrivait. Ouais. Bon, donc il y avait des révélations locales sur les options profondes d'un certain nombre d'élus, à gauche ou à droite d'ailleurs.
Voilà, ça c'est tout ce qui concerne.
À Le Pen ou Arlette Laguille.
Enfin, ça concerne là toutes les questions de rationalisation. Tu as évoqué tout à l'heure un troisième point, et je crois qu'il est vraiment central ici dans les objectifs du gouvernement, c'est la question des économies. Qu'est-ce qui va être fait pour essayer de répondre à tout ce discours sur la volonté de faire des économies ?
Voilà, on aborde probablement l'aspect le plus difficile à expliquer dans la réforme. Mais enfin, je vais essayer d'être
simple. Il nous reste que 14 minutes, mais on va y arriver.
On va y arriver. On va y arriver en simplifiant à outrance, mais enfin, on arrivera. Première économie escomptée de ce projet, la diminution du nombre d'élus.
Ouais, il y en a trop, ça coûte cher.
Donc, il y a actuellement 6 000, si on additionne, 6 000 conseillers généraux plus conseillers régionaux. Le projet de loi propose de créer un nouveau type d'élu appelé conseiller territorial qui gérera à la fois le département et la région, et les conseillers territoriaux ne seront que 3 000. Il y aura donc 3 000 élus de moins au niveau région-département.
Ça a le mérite de la franchise au niveau du cumul des mandats.
Voilà.
Voilà, on assume ouvertement qu'on va cumuler.
On organise officiellement le cumul des mandats et on demande à des super élus d'être un jour à gérer le département qui est dans une logique de gestion d'action sociale, le collège, etc. Et d'être le lendemain élu régional, c'est-à-dire d'être plus dans des missions d'ordre stratégique, aménagement du territoire, développement économique, formation professionnelle, emploi. Enfin, les compétences de la région sont tout à fait différentes des compétences du département. On aura 3000 super élus qui feront la navette entre les chefs-lieux de département et les chefs-lieux de région. Mais ils sont que 3000. Le gouvernement escompte à partir de là faire des économies. Tous les spécialistes contestent que ça entraînera des économies. Mais enfin, c'est le discours officiel.
Et comment ils seront élus justement ces conseillers
territoriaux ? Alors c'est là qu'est probablement l'aspect le plus antidémocratique de la réforme, puisque les conseillers territoriaux seront élus selon un scrutin qu'on n'a jamais utilisé en France depuis 1852, qui est le scrutin uninominal à un tour. Scrutin que jamais personne... Il paraît que c'est sorti de la tête du président de la République. Personne n'a jamais pensé qu'on pouvait sortir du placard un scrutin aussi antidémocratique.
Scrutin uninominal à un tour, faut expliquer ce que ça veut dire.
Celui qui a le plus de voix au premier tour est élu, et il n'y a pas de deuxième tour. Comme dans la structure politique actuelle, c'est presque toujours l'UMP qui arrive en tête.
Ah, ben voilà.
Alors que la gauche, généralement, se présente divisée au premier tour, et c'est sa tradition, s'il y a des alliances, elles se font entre les deux tours. L'UMP, qui n'a pas de réserve de voix, qui réunit toutes ses voix dès le premier tour, risque de rafler tous les postes, ou à peu près.
À court terme.
Sauf si la gauche se réforme, sauf si la loi passe pas, parce que c'est tellement gros que je suis pas sûr que ça résiste jusqu'au bout aux amendements parlementaires.
Si ça passait, l'objectif c'est quand même aussi à moyen terme le bipartisme, ce qu'on appelle le bipartisme.
C'est d'une part le bipartisme, c'est d'autre part l'effondrement total de la parité.
Oui, le bipartisme, il faudrait expliquer.
Le gouvernement répond, mais les conseillers territoriaux auront des suppléants. Et on pourra donc y placer des femmes. Les mouvements féministes, y compris le groupe des femmes de l'UMP, qui est monté à l'assaut de ce projet, dit oui, mais le titulaire, ça sera un homme, et la suppléante, ça sera une femme. Étant donné le caractère phallocratique de la classe politique française, et la difficulté qu'il y a à y faire monter la parité, il faut peut-être préciser qu'il y a un effondrement total de la parité.
C'est dans les scrutins de liste que la parité a eu un effet parce qu'il y a une obligation d'avoir une alternance homme-femme. Dans les scrutins uninominaux, les partis qui ont des élus envoient des hommes là où on peut gagner, des femmes là où on est sûr de perdre, et payent des amendes ensuite. Ils s'en fichent parce que les amendes sont ridicules. Et le bipartisme, c'est l'idée d'avoir un système à l'anglaise ou à l'américaine, où en gros, le mode d'élection fait que, obligatoirement, il y a un parti de droite et un parti de gauche, qui veut dire la disparition de la diversité. De la diversité.
Et l'écrasement de toutes les petites forces
et
politiques.
Et de tout, du coup, le débat politique aussi. Ouais, c'est la richesse de la diversité, bon. C'est le débat.
Donc ça, vous l'avez dit mieux que je l'aurais dit, donc c'est parfait, j'y reviens pas. Ouais.
L'autre point sur cette question des économies, c'est aussi la question du budget, des dépenses des collectivités, non ?
D'accord. Alors là, c'est peut-être le point le plus difficile, mais j'explique. Il y a actuellement dans la loi, et ça c'est depuis 1884, la loi qui régit les communes, une disposition qui s'appelle la clause de compétence générale. Ça se traduit par la phrase simple qu'on trouve dans la loi de 1884, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et la loi de décentralisation de 82 a dit la même chose pour le conseil général et pour le conseil régional. Ça veut dire que le conseil municipal peut se mêler de tout, du moment que c'est les affaires de la commune et qu'il respecte la loi. Il peut subventionner une association, il peut aider un club sportif, il peut aider des innovations dans le domaine social, il peut aider des expérimentations dans le domaine culturel. Ben, le conseil municipal, du moment qu'il estime que c'est une affaire qui est intéressante pour la commune, a le droit d'y engager des financements. De même pour le conseil général, de même pour le conseil régional. Donc des quantités d'actions qui sont menées, qui sont des actions extra-légales, qui ne sont pas définies dans une loi, sont soutenues par les financements publics grâce à la clause de compétence générale. Le gouvernement estime que c'est une source de dépenses injustifiées de la part des collectivités territoriales et se propose de remplacer pour les départements et les régions la clause de compétence générale par des compétences d'attribution. Dire que la loi qu'on discutera en 2011 attribuera des compétences précises pour le département et la région et le département et la région n'auront le droit de financer que leurs compétences d'attribution. N'auront pas le droit de mettre de l'argent dans autre chose. Donc, tous les financements départementaux et régionaux pour tout cet extra-légal, innovant, expérimentant, etc., sont menacés. Il y a une énorme inquiétude qui se répand dans la vie associative. J'ai eu l'occasion de voir récemment les associations sportives, les clubs sportifs qui s'inquiètent parce que les départements et les régions mettent beaucoup d'argent, les communes aussi, mais sans y être obligés par la loi. L'État, pour donner une idée, l'État met de l'ordre de 600 millions d'euros par an pour le sport, merci Rabaillade, et les collectivités locales mettent près de 9 milliards d'euros pour soutenir le sport. Alors, tout ça, c'est de l'argent pour le gouvernement, c'est de l'argent inutile, gaspillé, vaut mieux privatiser tout ça, sponsoriser tout ça, et les collectivités locales n'ont pas à s'engager dans ces secteurs. Mais c'est aussi vrai pour le social, pour les personnes âgées, pour les handicapés, on peut privatiser tout ça. Donc on est bien dans une logique libérale où on estime que les collectivités locales mettent de l'argent dans des systèmes, dans des aides, dans ces subventions abusives. Alors, le gouvernement n'est pas allé jusqu'à oser supprimer la clause de compétence générale pour les communes, mais les dispositions dans l'état actuel brident la liberté des communes de s'engager dans la compétence générale. Dire que les communes devront justifier devant le préfet que l'argent communal qu'elles engagent sont pour un intérêt majeur de la commune. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que la commune aura beaucoup plus de mal à subventionner tel événement local, l'animation de rue, telle association culturelle un petit peu marginale, mais à laquelle on donne sa chance, etc. Bon, donc, ou telle expérimentation dans le domaine social, où on dira que ce n'est pas vraiment essentiel que la commune distribue des colis de Noël aux personnes âgées. Donc, le préfet dira non, ça, je vous interdis de faire ça parce que c'était des dépenses tout à fait inutiles. Donc, il y a bien là une menace considérable. J'étais au début de la semaine dans un séminaire avec des grandes fédérations associatives qui examinent le texte de près pour mesurer l'étendue de la menace qui pèse sur la vie associative. Et tout ça pour ramener les collectivités locales à dépenser moins.
Donc, comme il nous reste très peu de temps, en conclusion, on peut quand même dire que du coup c'est la fin des haricots si cette loi passe pour tout le monde associatif et toutes les structures.
Est-ce que tu pourrais peut-être pour conclure dans les 2-3 minutes qui nous restent résumer selon toi quels sont les objectifs politiques du gouvernement par rapport à cet ensemble de réformes?
J'en vois essentiellement deux. Le premier est une reprise en main par l'État. C'est manifestement une recentralisation. C'est l'État qui n'admet pas qu'il y ait des libertés locales. Donc, en asséchant les finances et en remplaçant les impôts votés par les élus par des dotations versées par l'État, on tient les collectivités locales en laisse. En supprimant la clause de compétence générale, on réduit le champ d'intervention des collectivités locales, etc. Bon, naturellement, par les conseillers territoriaux, s'ils sont élus, comme je l'ai dit, le parti majoritaire reprend en main les régions et la majorité des départements, parti majoritaire n'ayant jamais admis que les régions soient à gauche, par exemple. C'est une imposture, comme chacun sait. Donc il y a vraiment une reprise en main par l'État, souvent par le biais du renforcement considérable du pouvoir des préfets. C'est donc une recentralisation incontestable. Le second, c'est la continuation de la logique libérale. C'est-à-dire que le service public, aussi bien que ce soit l'État que celui des collectivités locales, est abusif dans nos sociétés, et le libéralisme, c'est de remettre, de marchandiser et de remettre au privé le maximum de services publics. Alors l'État a commencé à largement à le faire pour les services de l'État qui ont été privatisés, etc. Les collectivités locales continuent d'être les garantes d'un service public local dans la plupart des cas. Et souvent, d'ailleurs, ces services publics locaux jouent actuellement un rôle considérable d'amortisseur de la crise. Les pauvres gens, c'est leur commune qui continue de les soutenir. Donc, le gouvernement n'admet pas ça. Le privé fera toujours mieux.
Voilà, donc faisons confiance au privé. Je suis désolé de vous couper la parole. Et donc, on peut chanter les louanges du système néolibéral et vive la privatisation et faisons confiance dans nos grands groupes financiers pour gérer mieux que nos élus, les affaires publiques. On est obligé de rendre l'antenne.
Veolia fera toujours mieux le service communal en régie directe.
Veolia a dû nous entendre et va nous censurer d'ici quelques instants.
Voilà. Merci,
chers auditeurs, merci beaucoup, Jean-Claude.
Veolia vous sponsorise pas?
C'est un appel.
HDR bientôt sponsorisé par Veolia.
C'était donc Dissidence cette semaine avec les alternatives. Merci à Shérif qui était à la technique et vous nous retrouvez retrouverez tous très bientôt. Bonne journée avec HDR.
N'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie.